L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir, depuis Msila, en Algérie, le professeur Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l'université de Mohamed Boudiaf. Avec lui, nous allons examiner la question du double standard dans le traitement médiatique du conflit qui oppose actuellement le mouvement Hamas palestinien à l'armée israélienne. Nous nous pencherons également sur la similitude de ce cas avec celui constaté en Ukraine depuis le début de l'opération spéciale militaire russe. Plus généralement, nous examinerons les implications de cette schizophrénie médiatique sur la santé mentale des populations et les maladies sociologiques qu'elle est susceptible d'engendrer dans la société. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Dès les premières heures de l'opération lancée le 7 octobre par le mouvement de résistance palestinien Hamas sur les colonies israéliennes, des articles et des diffusions en boucle à longueur de journée ont fleuri sur les sites des journaux, les radios et télé occidentaux. Tous ont basculé en mode édition spéciale, régurgitant le même narratif. Le même mot d'ordre est ressassé. Condamnation sans appel des actes terroristes, je les mets entre guillemets, inhumains et barbares des combattants du Hamas et le droit inaliénable d'Israël de se défendre avec tous les moyens. Un traitement auquel le conflit en Palestine latent depuis près de 75 ans était habitué.
Pour rappel,
les origines de ce conflit remontent à la Seconde Guerre mondiale. Le 29 novembre 1947, au lendemain de la guerre et de l'Holocauste, l'ONU a en effet voté pour un plan de partage de la Palestine. Il s'agissait d'en finir avec la Palestine mandataire, jusque-là sous contrôle britannique, pour créer deux États, un juif et un arabe. La ville de Jérusalem devait conserver le statut de zone internationale. Mais le plan de l'ONU tombe à l'eau dès le départ des Britanniques. Le 4 mai 1948, Israël proclame son indépendance. Immédiatement, les pays arabes, Égypte, Syrie, Jordanie, Liban et Irak, entrent en guerre contre le nouvel État. Le conflit dure un an et se solde par une victoire israélienne. L'État fixe temporairement ses frontières avec l'Égypte et le Liban, mais ses gains par rapport au plan de l'ONU de 1947 sont substantiels. Une nouvelle flambée des tensions a lieu lors de la guerre des Six Jours en 1967. Au sortir du conflit, Israël triple sa superficie. À partir des années 1990, le conflit prend un accent plus palestinien avec le déclenchement de plusieurs intifadas, des soulèvements aussi appelés « guerre des pierres ». En 2002, une autre intifada est déclenchée sur fond de lutte d'influence entre les deux partis palestiniens, le Fatah fondé par Yasser Arafat et le Hamas. Suite à cela, le Hamas prend finalement le contrôle total de la bande de Gaza après avoir évincé la plupart des militants du Fatah. Le 29 novembre 2012, la Palestine reçoit finalement le statut d'État observateur auprès de l'ONU, ce que beaucoup considèrent comme une reconnaissance de facto du statut d'État palestinien par la communauté internationale. Depuis le 7 octobre dernier, le conflit israélo-palestinien a connu une nouvelle escalade avec une attaque meurtrière du Hamas sur le sud d'Israël. Au moment où nous enregistrons cette émission, 1400 personnes ont perdu la vie côté israélien, tandis que le seuil des 5000 morts a été franchi dans la bande de Gaza après une riposte de l'État hébreu. Dans la nuit du 22 au 23 octobre, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé plus de 230 cibles dans la bande de Gaza. L'aide internationale a commencé à arriver dans la zone au compte-gouttes depuis samedi via l'Égypte. L'armée israélienne a autorisé à 14 camions transportant de l'eau, des médicaments et de la nourriture d'entrer par le sud de l'enclave. Le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus, a déclaré que l'opération terrestre sur Gaza serait annulée à condition que le Hamas se rende et libère les prisonniers. 222 otages seraient détenus par le Hamas selon Tsahal. À l'échelle internationale, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a réclamé plus d'aide et plus rapidement pour la bande de Gaza et s'est dit favorable à un cessez-le-feu humanitaire. Enfin, le ministre de la Défense américaine, Lloyd Austin, a mis en garde toute organisation ou pays qui serait tenté d'élargir le conflit au Proche-Orient et affirmé que les États-Unis n'hésiteraient pas à agir si leurs intérêts étaient visés. Bien que le président Joe Biden et le premier ministre israélien aient affirmé qu'il y aurait dorénavant un flux continu dans Gaza de cette assistance cruciale, Israël ne transférera aucune aide humanitaire vers l'enclave et empêchera tout approvisionnement incontrôlé en provenance d'autres pays, a déclaré à Haaretz, une source au sein du bureau du premier ministre israélien.
Ce comportement médiatique a encore une fois fait surgir, notamment sur les réseaux sociaux, des reproches de double standard dans le traitement de l'information relative à ce conflit. La même stratégie a été observée au début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Pendant plus de 8 ans, les médias occidentaux avaient occulté les exactions menées contre les populations russophones du Donbass par l'armée ukrainienne, renforcée par des bataillons complets de néo-nazis. Et voilà que la Russie est accusée d'agression militaire contre un pays souverain. Ceci en faisant fi du fait que les autorités russes ont su garder leur calme face à ces crimes pendant 8 années, se sont laissés duper à 2 fois par les Occidentaux en souscrivant aux accords de Minsk 1 et 2. De l'aveu de Hollande et Merkel qui dirigeaient la France et l'Allemagne à l'époque, le but de ces accords était de donner du temps à l'Ukraine pour préparer la guerre. Moscou a également cru jusqu'à fin décembre 2011 à une possible paix, proposant le principe de garantie juridique que la sécurité de la Russie ne serait pas mise en danger, refusée également par les États-Unis. Les fake news sont très souvent partagées parce que les auditeurs, notamment les internautes, les croient et les relayent sans aucun effort de discernement. Actuellement, les dangers de ces manipulations croient à très grande vitesse dans le contexte des nouveaux moyens que l'intelligence artificielle met à disposition à fur et à mesure de son développement. La désinformation, notamment celle contrôlée et dirigée à dessein, a de nombreuses conséquences graves sur la société. Elle met à mal la démocratie, à l'étiquette, stigmatise et polarise les débats. Elle met en danger la santé, la sécurité et l'environnement des citoyens. Elle met à mal l'économie et le développement et travaille à la dissolution des liens sociaux et de l'unité nationale. De ce point de vue, la désinformation est une forme aggravée de la dislocation sociale dans un contexte de réseaux sociaux et d'absence de règles clairement définies et établies. Alors, pour traiter ce sujet fondamental et donner les moyens à tous ceux qui sont épris de vérité et de justice de penser par eux-mêmes et de déceler la bonne information du mensonge, j'ai le plaisir de recevoir depuis Msila, en Algérie, le professeur Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l'université de Mohamed Boudiaf. Professeur Ahmed Rouadjia, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour, je vous en prie.
Alors, professeur Rouadjia, le 15 octobre, vous avez signé un article publié par le site Le Matin d'Algérie sous le titre « Kamel Daoud », c'est le chroniqueur célèbre du quotidien d'Oran et puis actuellement de la revue Le Point en France. Alors, le titre, c'est « Kamel Daoud et la défaite de la cause palestinienne ». Alors, votre article est en réponse à une chronique de ce dernier publiée le 13 octobre par la revue française Le Point, intitulée « Une défaite pour la cause palestinienne », dans laquelle il accuse le Hamas d'être un mouvement terroriste, je mets entre guillemets, islamique, animé d'un messianisme anti-juif et d'une judéophobie strictement haineuse. Et puis, le 16 octobre, vous avez signé une déclaration de soutien à l'opération du Hamas avec une quarantaine d'intellectuels en vue de libérer son pays du joug du colonialisme. Alors, ma question, maintenant, Monsieur Rouadjia, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet article que vous avez écrit, pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous a poussé à prendre votre plume et affirmer publiquement votre position à l'égard de la cause palestinienne ?
Oui, mais ce n'est pas la première fois que j'écris c'est pas pour la première fois que je prends parti pour la Palestine et ce n'est pas la première fois que j'écris des articles en faveur du peuple palestinien, toutes tendances par ailleurs confondues. Tous les hommes qui ont porté les armes en Palestine et qui le portent encore, ils sont dans une position de légitime de défense et dans une position de résistance contre l'occupation coloniale israélienne soutenue par les États-Unis et leurs satellites, c'est-à-dire les Européens. Et ce qui m'a amené à écrire cet article, tout simplement de la part, j'étais surpris, étonné qu'un Algérien qui se disait Algérien, patriote, il y a quelques années, il prend la plume pour écrire, pour reprendre exactement. Non seulement il a repris les thèses américaines, surtout à propos de la Palestine, mais il est allé trop loin. C'est-à-dire, il a adopté l'attitude d'un véritable arabe de service, c'est-à-dire un arabe renégat, un Algérien renégat, qui, pour plaire aux maîtres du monde, il essaye de leur faire de la courbette, d'aller beaucoup plus loin que leur position anti-palestinienne. Et pour moi, ça a été, pour moi, c'est de la honte. Non seulement de la honte, mais ces prises de position sont fausses et complètement injustes dans la mesure où il réduit la résistance de Hamas ou un mouvement terroriste. Terroriste, c'est injuste parce que Hamas n'a jamais commis attentat contre les Français ou contre les Américains ou les Allemands. Il n'a jamais porté des coups, des luttes en dehors de la Palestine occupée, parce qu'il est occupé. Ce mouvement, il est sous la domination coloniale sioniste. Voilà les raisons pour lesquelles D'accord. j'ai réagi.
Moi, ce qui a attiré mon attention, Monsieur Rouadjaye, puis je vous redonne la parole pour continuer votre développement, c'est que justement il dit que donc il accuse le mouvement Hamas d'être un mouvement terroriste islamique, et puis il les accuse d'un messianisme anti-juif et d'une judéophobie strictement haineuse. Voilà, donc on reprend le même narratif. Alors, à ce titre, j'aimerais bien rappeler que tous les médias dans lesquels ces gens publient, ils n'ont rien dit, par exemple, sur le fait qu'il y a des néo-nazis, par exemple, ukrainiens, qui combattent dans le Donbass la Russie, parce que les médias occidentaux défendent tous, à l'unanimité, sans discernement, ce qui se passe. Ils sont tous alliés de l'Ukraine. Mais là-bas, c'est que ces néo-nazis se réclament de Stepan Bandera, qui est le chef historique des collabos nazis ukrainiens, responsable de la mort de millions de gens, y compris juifs. C'est un anti-juif connu. Et le président Zelensky a lui-même inauguré des stèles à la mémoire de Stepan Bandera. Alors, comment ça se fait quand le Hamas donc, attaque et on lui colle cette étiquette de messianisme anti-juif, mais alors qu'ils ne trouvent aucun problème à célébrer ce que font des groupes néo-nazis ouvertement donc affiliés à la même pensée de Stepan Bandera.
Et non, mais c'est très simple, cette propagande, cette intox, cette prise de position unilatérale. Elle s'explique par le fait que l'Occident tremblote devant les réactions de la Russie, mais face aux fascistes ukrainiens, il tremblote face à la contre-offensive russe pour la simple raison qu'ils ne veulent pas perdre le monopole de la domination mondiale. Ils essayent d'empiéter sur l'empire russe, lui grignoter des territoires, et donc la meilleure façon de discréditer la Russie, mais aussi les mouvements de libération comme Hamas, les discréditer en disant que ces gens-là sont contre l'ordre démocratique, contre la paix dans le monde, et sont les agresseurs. Ce sont des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme et donc ils transforment le bourreau en victime et la victime en bourreau. Et cette logique, elle est aussi normal dans leur tête, parce qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre uniquement par les armes. Il faut qu'ils la gagnent aussi au niveau de psychologique, au niveau de la propagande. Donc, je veux dire que de leur point de vue, cette arme qui est la propagande, qui est l'intox, qui est la déformation de la réalité, fait partie intégrante de leur stratégie parce qu'ils ne veulent pas perdre le monopole de la violence à l'échelle mondiale. Et donc, la Russie et les pays musulmans, malgré leurs faiblesses, malgré les faiblesses des régimes qui sont complètement à la botte américaine, mais leur peuple, ils sont complètement opposés à cette domination et à ce double standard. D'où l'affolement, la panique mondiale et la propagande conduite par les États-Unis. Et on voit bien que les Européens, ils ont perdu leur dernier lambeau de conscience et leur indépendance et leur autonomie de la guerre. Ils sont complètement inféodés aux États-Unis. C'est clair et net.
D'accord. Alors, j'aimerais juste préciser une chose, qu'ici, il ne s'agit pas d'absoudre quiconque de crimes contre des civils. Si le Hamas a commis des crimes contre des civils, ils sont certainement condamnables. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais seulement, il ne faut pas lever l'étendard de la condamnation, juste d'un côté, ce que font Israël, justement en Palestine, notamment à Gaza, en bombardant les civils, en bombardant sans discernement, et d'autant plus qu'avec des armes de précision, hein, les F-16 et les F-15, tous les missiles qui sont montés sur ces avions-là sont des armes de précision. Donc on ne vient pas raconter et dire que c'est des erreurs ou c'est des fautes ou quoi que ce soit. Donc, alors, le terrorisme tel qu'il est défini, y compris au sein des Nations Unies, par les Nations Unies, n'est pas une idéologie ou une conviction. Ce n'est pas ça, mais c'est une méthode. Une méthode, c'est-à-dire quand on tire sur des civils non armés, paisibles et pacifistes, on les tue parce que on a des buts politiques derrière ça. Et de ce point de vue, tout celui qui commet une grave action à l'encontre des civils est forcément doit être qualifié de terroriste. Alors, si le Hamas a commis des choses sur au contre civil, oui, c'est des actes terroristes, mais aussi on ne peut pas nier que Israël, avec ce qu'il fait, devient par lui-même un État terroriste. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, mais le problème, on n'est pas là pour approuver les actes, certains actes répréhensibles ou terroristes de la part de Hamas. Des erreurs peuvent se produire, même les Israéliens peuvent faire des erreurs de manière involontaire. Mais le problème, c'est que Hamas n'a jamais attenté aux civils jusqu'alors. Il est depuis 10 décennies dans une position défensive. Il est dans une prison à ciel ouvert. Il peut se tromper, il peut tuer des enfants et des femmes et des vieillards, j'en suis certain, mais il ne le fera pas, il ne l'a jamais fait de manière délibérée. Parce que il est dans une position d'infériorité. D'abord, ce n'est pas une puissance comme les Israéliens. Ce n'est pas une armée régulière. C'est un mouvement de résistance. Et on sait très bien que la résistance française a été qualifiée de terroriste par les Allemands. Le FNL vietnamien, c'est la même chose. C'était un mouvement qualifié de terroriste. Et le FLN algérien, idem. Il a toujours été jusqu'au bout, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Il a été rangé dans la catégorie terroriste, comme il l'était les résistants français. Donc, je veux dire que cette propagande actuellement, qui pour dénier le caractère de résistant, de mouvements de libération, ils sont obligés de la transformer en mouvement terroriste et trouver tous les prétextes pour lui coller cette étiquette et pour justifier les interventions étrangères et surtout pour justifier le nom de roi aux Palestiniens d'avoir leur propre État. Ils sont chez eux, les Palestiniens. Le problème, c'est que ces Israéliens, ils viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas originaires de la Palestine. Il y a des Russes, des Juifs d'origine russe, française, américaine, de tous les pays du monde. Ils disposent de 3, 4, voire même 5 passeports. Donc, ils font allégeance à plusieurs nations, à plusieurs États dans le monde. Les Palestiniens n'ont qu'une seule patrie, une seule nationalité.
D'accord. Bien. Alors, pour aller encore un peu plus loin dans l'analyse de ce double standard dans le traitement de l'information, et alors là, j'aimerais bien rappeler un peu certains faits. Donc, où justement les médias jouent ce rôle de néfaste. Le 1er décembre 2008, le président George Bush a reconnu que le fait d'avoir attaqué l'Irak était une grave erreur et une erreur de renseignement. Donc, il reconnaît que c'est une erreur. Après, en 2013, c'est un entretien aussi à l'Obs de Colin Powell qui a dit qu'il s'était fait berner par les services de renseignement qui l'accusent d'avoir menti pour déclencher la guerre en Irak. Alors, les deux ne s'excusent pas pour le peuple irakien. Il y a plus d'un million de morts après ça. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'il y a eu une déclassification des services, des documents faits par la CIA concernant, qui ont précédé la guerre et qui ont dit que les services d'enseignement avaient fait leur travail et avaient dit à l'administration Bush qu'il n'y avait ni d'armes de destruction massive en Irak et il n'y avait aucune relation entre l'Irak et Al-Qaïda. Alors, les millions d'Irakiens qui sont morts, une virgule, comme disait l'autre, un détail, c'est un détail de l'histoire. Alors, professeur Wajaya, comment analysez-vous cet événement majeur et qui a inauguré justement à grande échelle ces technologies de désinformation et quelles sont ses retombées sur l'environnement informationnel mondial ?
Non, au fait, la connaissance tardive de George Bush et de Colin Powell, cette reconnaissance tardive, c'est une farce parce que à l'époque, ils le savaient pertinemment tous les deux, le président et le ministre de la Défense, ils savaient très bien, et c'est eux qui ont préparé cette propagande comme quoi l'Irak possédait des armes chimiques. Ils le savaient quand ils disent qu'ils se sont trompés, etc. Et c'est faux, ils ne se sont pas trompés, ils savaient ce qu'il fallait faire. Et j'ai dit, je répète, je l'ai dit dans la réponse précédente, que la propagande fait partie du jeu de la guerre. C'est-à-dire que cette propagande, elle doit accompagner les armes, la guerre, etc. Et donc, ils ne peuvent pas regretter, puisqu'ils le savaient, puisque c'est eux qui avaient encouragé, demandé ces rapports, ces faux rapports, au FBI ou à la CIA. Donc c'est pas du tout surprenant qu'ils aient fait ces déclarations et ce n'est pas étonnant qu'ils se refusent de demander des excuses.
D'accord. Alors, il y a aussi d'autres, c'est-à-dire anniversaires odieux d'agressions militaires américaines et occidentales au mépris du droit international et du rôle de l'ONU et du Conseil de sécurité. Donc, il y a le bombardement de la Libye par l'OTAN en 2011 sous le prétexte cynique de protection humanitaire. Puis, il y a eu l'ex-Yougoslavie aussi sous le même prétexte de protection humanitaire et sans approbation de l'ONU et sur la base d'une action unilatérale de Washington et de ses alliés occidentaux.
Là encore, ça n'a rien de surprenant. Je veux dire que le droit international ne vaut rien pour les États-Unis et leurs satellites, protégés européens pour la simple raison que tout est basé sur un rapport de force et c'est la force qui prime le droit. Donc parler du droit, dans les circonstances actuelles et même avant, c'est vraiment ne rien comprendre à la politique internationale. Parce que on voit le grand mérite des Américains, c'est que le mérite des Américains, des Nord-Américains, sur leur franchise, quand ils disent aller dans tel ou tel pays pour défendre les intérêts américains et pour assurer la sécurité de la nation américaine, donc ils ne mentent pas, ils ne racontent pas de conneries. Ils disent qu'on est là, on emploie la force pour défendre les intérêts éternels des États-Unis. Donc, ils parlent, bien sûr, le droit, ça c'est uniquement pour tromper, pour duper la masse mondiale, mais en vérité, ils suggèrent aussi qu'ils sont là pour défendre leurs intérêts en se basant uniquement sur la force et non sur le droit. Mais en même temps, ils font valoir qu'ils sont là pour défendre les valeurs démocratiques. Les valeurs démocratiques, c'est comme leurs valeurs démocratiques. D'ailleurs, ces valeurs démocratiques, ils contredisent l'emploi de la force brutale. Mais en même temps, dire que nous sommes là pour défendre nos valeurs, ça veut dire quoi ? Les défendre contre la barbarie, c'est-à-dire que tous les autres peuples, y compris la Russie historique, elle est considérée comme un pays barbare, dictatorial, parce que la Russie est le seul État actuel qui s'oppose aux intérêts américains. Non, pas aux intérêts américains, qui s'oppose à l'expansionnisme américain qui empiète sur les périmètres sacrés de la Russie historique.
D'accord. Alors, professeur Wajaya, la criminalité est permise donc, parce qu'en grande partie, les médias occidentaux servent à dissimuler ces crimes avec des excuses et des mensonges fabriqués, comme l'histoire, par exemple, des 40 enfants décapités par le Hamas, ou accuser le Hamas d'avoir bombardé l'hôpital de Gaza, accuser la Russie d'avoir commis le massacre de Boutcha en Ukraine, et ainsi de suite. Et les médias occidentaux ont menti pour déclencher aussi la guerre en Irak, comme ils l'ont consciemment fait pour déclencher d'autres guerres.
Oui.
Et actuellement, ces médias tentent de dire au monde entier que c'est le Hamas qui est l'agresseur et qu'il continue une menace pour la démocratie, comme vous venez de dire. Alors, qu'est-ce qui garantit justement l'impunité aux Occidentaux et aux Israéliens quant à tous les crimes commis ?
Pour ne pas me répéter, j'ai l'impression que je me répète et je répète. On a dit que les médias occidentaux, quand ils mentent, ils disent qu'ils sont c'est une presse de liberté, de pluralité, de diversité. Mais en vérité, elle est complètement contrôlée par les États. C'est comme les partis uniques de la guerre. C'est pire encore que les partis uniques dans le tiers-monde, dans d'autres États de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud. La presse occidentale, elle est complètement servile, elle est complètement dans la servitude. Elle reçoit des injonctions de la part du pouvoir politique pour mentir. Et le mensonge, ça fait partie de la politique coloniale et colonialiste. Ça fait partie de partie intégrante de la politique d'expansion mondiale de l'Europe. L'Europe a la peur de perdre le monopole économique, le monopole de la violence contre les autres peuples. Et c'est cette panique qui les pousse à mentir. Et le mensonge, ça permet de mobiliser leur peuple derrière eux, de maintenir leur peuple dans l'ignorance pour avoir les coups des franges, pour pouvoir intervenir ailleurs, parce qu'il est vrai que chez eux, il y a une démocratie interne. Il est vrai que ce sont les électeurs qui décident en dernier ressort. Il est vrai que la voix des électeurs pèse dans la gestion politique des États. Tout ça à l'intérieur. Mais parfois, ces électeurs sont dupés, trompés par la propagande, parce qu'il y a tout un lavage de cerveau, il y a un matraquage idéologique, et les gens n'ont pas le temps de réfléchir, et ils n'ont pas d'opinion. Et quand on a une opinion juste, on doit connaître ce dont il s'agit. Les Français, les Américains connaissent-ils les conditions dans lesquelles vivent les Palestiniens? Non. Savent-ils les circonstances dans lesquelles ils ont été chassés de leur terre? Non, ils ne le savent pas. Savent-ils que les Israéliens massacrent quotidiennement des enfants palestiniens, mais aussi des hommes, des femmes et des vieillards? Non, ils ne savent pas. Et quand ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas avoir une opinion juste. Donc, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils reçoivent de la propagande locale. Voilà la vérité historique, voilà la vérité sociologique.
Donc c'est très important ce que vous dites, Monsieur Rouadjeya, parce que cette propagande, justement, donc essentiellement, elle vise les populations occidentales avant tout, pour faire en sorte de créer...
Mais bien sûr, je répète qu'à l'intérieur des États, il y a une véritable démocratie. C'est une démocratie des urnes. Mais cette démocratie, elle est complètement contrôlée et conditionnée par l'idéologie et par l'art l'art de mentir, comme dit Machiavel. Donc, je veux dire, il y a d'un côté démocratie parce qu'elle est décidée par les urnes, et de l'autre côté, elle a sa contrepartie négative, cette démocratie, c'est le lavage des cerveaux, c'est le conditionnement idéologique des peuples. Et bien sûr, on voit que les citoyens européens, américains, les mieux avertis, ils connaissent la réalité des choses, et en fonction de cette réalité, ils descendent dans la rue pour manifester en faveur des Palestiniens. Voilà la différence. Donc, je veux dire, il faut prendre les choses avec des pincettes, mais aussi avec nuance. Je reviens de l'Europe. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont pour la Russie et sont pour la politique menée par Poutine, mais ils n'osent pas toujours parler. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que cette démocratie, elle est boiteuse. On contrôle les opinions des citoyens, et comme pour le cas de Hamas, les autorités européennes, dans leur totalité, y compris les États-Unis, ils ont interdit les manifestations en faveur de la Palestine. Ce prétexte, ces manifestations servent les terroristes, entre guillemets, de Hamas, ce qui est complètement faux. C'est une manière de ne pas apporter la solidarité, empêcher les gens d'apporter leur solidarité pour le peuple palestinien dans sa totalité.
D'accord. Alors, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le professeur Ahmed Rouadjeya, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le professeur Ahmed Rouadjeya, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l'université Mohamed Boudiaf de Msila en Algérie. Professeur Ahmed Rouadjeya, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'entretien. Alors, il y a une question quand même fondamentale avant de passer à autre chose. La situation actuelle que vit le monde actuellement, en particulier en Ukraine, il y a eu toute une série de guerres et d'interventions secrètes menées par les États-Unis au Mali, dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Yémen, en Syrie, en Géorgie et enfin en Ukraine, et qui étaient tous les petits pas de l'expansion de l'OTAN vers les frontières de la Russie. Et c'est dans ce contexte alors que l'ONU et son Conseil de sécurité sont relégués à un rôle de figurant sur la scène internationale qu'il convient de comprendre et d'évaluer la guerre actuelle en Palestine et la situation en Ukraine, et ainsi que la montée militariste incessante contre la Chine et en Asie-Pacifique à cause de Taïwan. Alors, ma question, monsieur Rouadjia, en quoi l'opération militaire spéciale russe en Ukraine est-elle plus condamnable que les autres guerres menées par les États-Unis et leurs alliés dans plusieurs pays arabes, européens et asiatiques, et quid des violations des droits de l'homme quasi quotidiennes en Palestine par l'armée israélienne?
Non, mais ça se comprend très bien parce que moi, j'ai un exemple à vous donner. Pierre Joxe, l'ex-ministre de l'Intérieur français, avait écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « L'Amérique mercenaire ». L'Amérique mercenaire, c'est quoi ? C'est le gendarme international qui essaye par tous les moyens de non seulement de préserver ses intérêts, mais de rétrécir les zones d'influence de certaines puissances comme la Russie et la Chine. Et donc, au fait, cela n'est pas sans rappeler le dépouillement de l'Empire l'Empire ottoman par les Européens. Et donc, les Américains essayent justement de dépecer la Russie, de l'affaiblir, ou à défaut, de l'affaiblir comme... pour affaiblir également la Chine et de réduire tous les pays qui le résistent, de les réduire dans un état esclavagiste comme les pays arabes. C'est pas les pays, les régimes arabes qui s'opposent aux Américains. Tous les régimes arabes, et surtout ceux des monarchies arabes, au Moyen-Orient.
Mais qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, de la situation actuelle concernant l'Arabie Saoudite qui affiche une opposition complète et cherche justement à sortir de l'inféodation aux intérêts américains?
Mais non, c'est en apparence cette volonté de sortir, non. Elle est complètement coincée. Elle essaye de normaliser ses relations avec Israël pour faire pièce aux Iraniens, parce que les Arabes, ils sont en train de reprendre la propagande américaine depuis des années, selon lesquelles les chiites sont des extrémistes et s'opposent aux sunnites. Ils sont là pour diviser, pour régner. Et les Saoudiens, ils ont repris à leur compte cette chanson. Ils ont beaucoup plus peur des Iraniens, de leurs frères iraniens musulmans. Ils ont beaucoup plus peur des Palestiniens que des Israéliens. Ils sont beaucoup plus tranquillisés, confiance.
Mais des gens vous diront, professeur Rouadjia, que justement l'Arabie Saoudite, avec la direction de Mohamed Ben Salman, a normalisé ses relations avec l'Iran et cherche à régler tous les problèmes. Et actuellement, elle soutient sans embâge la cause palestinienne, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a quand même un revirement dans la position saoudienne. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je donne d'abord mon opinion. Je donne, s'il vous plaît, mon opinion, ce que disent les autres, c'est leur opinion et je la respecte. Je suis en train de dire que l'Arabie Saoudite, elle est dans des hésitations, se trouve dans valse hésitation actuellement. Et elle a normalisé ses relations avec l'Iran. Elle a fait volte-face. Elle a demandé, des approches avec les Israéliens récemment pour normaliser ses relations. Ils ont fait ces déclarations, mais cette normalisation, elle était remise en cause par la résistance Hamas. Et donc, les Saoudiens n'ont pas non plus, ils sont acculés, ils n'ont pas de politique, ils sont orphelins de l'Amérique. Ils cherchent un nouveau protecteur. Et ce nouveau protecteur ne peut être qu'Israël. L'union, la normalisation avec Israël leur permettrait, selon leur point de vue, de faire pièce aux Iraniens. Les Iraniens sont l'ennemi principal, l'ennemi secret des Saoudiens. C'est un pays qui ne peut pas se défendre lui-même.
Mais alors, comment vous expliquez le fait qu'ils ont choisi de rejoindre les BRICS?
Oui, mais là ils l'ont rejoint dans le but de préserver certains intérêts économiques, parce que eux, ils sont sur plusieurs fronts, sur l'économie comme les Émirats et sur la politique. Ils rejoindre le BRICS ne leur offre pas forcément une, si vous voulez, une garantie, parce que la garantie de leur la garantie sécuritaire de leur propre pays dépend beaucoup plus de leur volonté à eux, de leur capacité à se défendre sur le plan politique et militaire, que de défendre des BRICS ou des Américains. Et comme ils ne peuvent pas se défendre, il faut bien qu'ils s'offrent à d'autres pays comme Israël ou BRICS. Parce que le BRICS n'est pas dominé par les Iraniens.
D'accord. Alors, il y a une chose quand même que j'aimerais soulever avec vous, professeur Arwadjiya, sur laquelle j'aimerais bien aussi vous poser une question. Alors, chaque anniversaire de la guerre américaine-britannique contre l'Irak, qui a fait plus d'un million de morts, normalement, si l'on veut ce qui se passe actuellement et avec tout ce que c'est, toutes les attaques qu'on veut faire à l'égard de pas mal de dirigeants dans le monde, devrait être l'occasion de traduire devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre aux normes de Nuremberg, hein, les personnalités politiques et militaires américaines et britanniques comme George Bush, Tony Blair et l'actuel président américain Joe Biden pour son rôle crucial de sénateur senior à l'époque pour autoriser la guerre contre l'Irak. Mais également les généraux de Tsahal pour tous les crimes commis contre les civils palestiniens, par exemple des massacres des camps des réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila. Et les médias occidentaux tels que le New York Times et le Washington Post qui ont diffusé en masse les mensonges en faveur de cette guerre. Alors, ma question, professeur, pourquoi rien n'est fait dans ce sens? Et est-ce que la CPI... Et est-ce normal que la CPI lance un laconique mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine tout en ne soufflant aucun mot sur les crimes avérés et documentés de ses homologues occidentaux et israéliens?
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit international tel qu'il est vu, regardé, pratiqué par les États-Unis relève beaucoup plus de la fiction que de la réalité pour les Américains et les Européens, et que traduire leur personnel politique, leur personnalité politique devant le tribunal international, c'est aller à l'encontre de leur stratégie basée sur la loi de la jungle, sur la loi de la force. Donc, bien sûr, ils peuvent de temps à autre pour jeter de la poudre aux yeux des peuples étrangers, arrêter, condamner verbalement quelques personnalités pour montrer tout simplement qu'ils respectent les réquisites de la démocratie, mais en vérité, c'est de la tromperie pure et simple. Donc tout ce que dissimule tous les mensonges conduits, faits par les États et leur presse à la solde, une presse complètement contrôlée, malgré sa pluralité, tout cela n'est que de la farce. Ça relève de la fiction et de la farce. Et ça ne relève pas d'une politique respectueuse du droit international et de la personne humaine.
D'accord. Maintenant, passons à une chose, autant que là je sollicite vos compétences en tant que sociologue, pas uniquement politologue. Alors, il y a quand même cette schizophrénie qu'on observe et que nous avons relayé largement dans cette émission, dont les doubles standards de l'information, ça a quand même un impact très important sur la psychologie des gens. Parce que on nie des choses où on se déclare qu'on est pour des choses et puis on fait exactement l'inverse, et puis ça a un impact, je ne sais pas, c'est à vous de nous dire, sur après les liens sociaux, sur l'organisation sociétale. Par exemple, prenons l'exemple de l'Ukraine. Les gens, par exemple, qui disent que nous défendons l'Ukraine contre l'invasion russe, ce sont eux, les mêmes qui livrent l'Ukraine à la domination occidentale, américaine en particulier. Alors, ceux qui se disent aussi qu'on est antisémite, qu'on combat l'antisémitisme ou le messianisme anti-juif, pour reprendre Kamel Daoud, et ce sont les mêmes après qui célèbrent ceux qui ont commis les crimes les plus graves contre justement les Juifs, comme le cas du nazi qui a été applaudi au Parlement canadien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, quelle est la mécanique qui mène les gens comme individus ou sociétés à cette situation et ses implications?
Oui, comme je l'ai dit, il y a un travail de propagande qui touche de large pans des sociétés européennes et américaines, et même mondiales, même certains secteurs du monde arabe et de l'Afrique, qui sont gagnés par la propagande occidentale. Le problème, c'est qu'on a dit que les gens qui n'ont pas d'opinion, qui ne fondent pas leur opinion sur des données concrètes, sur des éléments historiques, sur des éléments d'information tangible, et bien sûr qu'ils gobent, qu'ils avalise tout ce qui est donné, tout ce qui est servi par la presse. Les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Les gens, ils sont là pour écouter, pour aller vite, pour former une opinion rapide. Et cette opinion, elle est faite par la presse. C'est le journaliste qui fait l'opinion, c'est pas le citoyen qui fait sa propre opinion. Et lui, il est subi un bombardement continuel de l'information, d'autant plus que le citoyen européen n'écoute pas une seule chaîne, il ne lit pas un seul journal. Il lit plusieurs journaux et subit le bombardement de plusieurs antennes et chaînes de télévision. Et là, il forme une opinion, mais une opinion qui lui a été donnée par d'autres. Ça, une. Je reviens à l'Ukraine. L'Ukraine, elle a été préparée de longue main, travaillée au corps par les services de renseignement occidentaux. Et je peux dire que Gorbatchev, il a préparé le terrain à cette infiltration occidentale. Donc le but des Européens, c'est chaque fois grignoter sur l'Empire russe. C'est chaque fois c'est l'encerclement de la Russie. Encercler la Russie, c'est la neutraliser, c'est l'affaiblir pour que la domination occidentale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus un monde bipolaire à deux, mais un seul gendarme qui doit envelopper, dominer le monde entier. Et cette ambition a été donc poussée très loin par les Américains et leurs satellites européens. Ils veulent une domination unilatérale du monde entier. Une fois la Russie affaiblie et la Chine affaiblie aussi, donc cela va ouvrir le chemin à l'Amérique pour dominer l'Afrique, l'Asie, le monde arabe. C'est-à-dire, il n'y aura un seul chef d'État, un seul gouvernement mondial dont le siège se trouvera à New York. Voilà la vérité. À Washington, plutôt.
Mais c'est-à-dire qu'après, ce qui est observé dans ça, c'est que après, les Européens, par exemple, nos occidentaux, les peuples, sont amenés tout en carroyant de défendre les intérêts, par exemple, de l'Ukraine ou d'Israël, à détruire leur propre pays et à soumettre leur propre pays et à laisser tomber les intérêts, leurs propres intérêts, les intérêts du propre pays, contre ceux, justement, au profit de ceux, justement, qui les instrumentalisent et qui les utilisent.
Excusez-moi de me répéter, j'ai dit que les Européens, les peuples européens et américains n'ont pas d'opinion propre, et ils ont l'opinion qui leur a été.
C'est que en tant qu'individu, c'est compris, mais c'était après comment la chose se transforme en un phénomène social et sociétal et qui fait rentrer les gens dans une espèce de servitude volontaire sans qu'ils le veuillent.
Oui, mais cela, c'est dans l'ordre logique des choses. On a dit le conditionnement idéologique, l'imposition de cette idéologie dominante fait que les gens l'épousent parce qu'on leur fait croire que plus on domine le monde, plus on a des perspectives et des possibilités de créer des emplois, d'exporter nos produits manufacturés ou agricoles. Plus on domine les autres, plus on devient riche. Ça, c'est ce qu'on dit aux gens. Mais en même temps, on leur fait accroire que ces peuples sont des peuples barbares qui menacent la sécurité et le bien-être des démocraties. On leur fait croire tous les jours que les autres sont des barbares, sont des fanatiques, et ces fanatiques et ces gens se développent, ils constituent une menace pour toutes les nations civilisées et démocratiques. Voilà le secret de l'affaire.
Alors, Monsieur Rouadjia, comment les choses se présentent dans les pays du Maghreb, l'Algérie par exemple, ou les pays africains, par rapport à toute cette propagande internationale ou ce lavage de cerveau médiatique?
Je pense qu'une très bonne partie de l'Afrique, l'Afrique du Nord et l'Afrique noire, se réveille. Donc, il y a de larges pans des sociétés civiles locales qui ont compris, comme comme en témoignent les soulèvements ou les coups d'État récents. Ce n'est pas négatif pour moi, des coups d'État qui mettent fin à la domination occidentale et qui sont sincères dans leur action, dans leur travail de transformation de la société, c'est un indice de réveil de la part des peuples africains. Par exemple, je prends le cas du Maroc qui a des amitiés, le régime, pardon, la monarchie marocaine qui éprouve une grande sympathie envers Israël depuis des décennies. Le peuple marocain commence à comprendre qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser en ce qui concerne surtout la cause palestinienne. Les manifestations, le mécontentement ont fait reculer la monarchie actuelle. Elle rase les murs, elle est dans une situation vraiment très difficile, dans une situation de gêne et dans une position défensive par rapport à son propre peuple. En ce qui concerne l'Algérie est une exception dans le tiers-monde, dans le monde arabe et africain, c'est qu'elle n'a jamais marchandé son soutien inconditionnel au peuple palestinien. Et elle s'est toujours opposée justement à l'hégémonie occidentale, malgré les vices, certains vices ou certains défauts qu'on peut relever ici et là, parmi les dirigeants algériens, mais dans l'ensemble, et je ne dis pas ça parce que je suis algérien, mais c'est une vérité que tout le monde, que tous les étrangers le disent, la répètent. L'Algérie est le seul pays en Afrique qui essaye tant bien que mal de préserver l'indépendance de l'Algérie et de l'Afrique et de la protéger de l'hégémonie occidentale. Mmh.
D'accord. Alors, pour finir donc cette émission, le développement donc de la croissance économique repose sur l'accès à des sources diversifiées, fiables de nouvelles informations. Cela permet donc aux citoyens d'être éclairés sur la situation sociologique, économique, et se forger une opinion, c'est ce que vous décriez tout à l'heure, de demander au gouvernement et aux personnes ayant des responsabilités publiques de rendre des comptes. Alors, comment faire en sorte que la désinformation, je parle en Afrique, notamment via les réseaux sociaux et les gouvernements africains, sont-ils appelés à assumer la responsabilité d'équiper les citoyens d'outils, de compétences nécessaires pour qu'ils soient capables d'évaluer l'information par un esprit critique? Et quel est le rôle pour le citoyen et la société civile dans cette entreprise?
Moi, je peux dire qu'en Afrique, les gens ils sont beaucoup moins réceptifs à la propagande, ni de leur propre pays, ni de celle de l'Occident. C'est que les gens lisent beaucoup moins, mais le téléphone, c'est-à-dire le contact oral le vécu quotidien, quand ils voient que les Européens viennent exploiter leurs richesses, profiter de leurs richesses, là, ils peuvent former une véritable opinion. Ils comprennent qu'ils sont dominés. Et toutes les manifestations récemment dans les pays d'Afrique le prouvent qu'il y a une prise de conscience de la rue qui vient directement du vécu, hein, du mépris affiché par le colon européen en Afrique, par le comportement supérieur. Et pour les Africains, cela devient insupportable. Et donc, pour la première fois qu'il y a un réveil de l'Afrique, et je pense qu'on chemine vers plus de progrès en matière de réveil national et de conscience citoyenne dans tous les pays d'Afrique noire.
Et par rapport à ça, Monsieur Rouadjia, comment évaluez-vous l'évolution de la situation dans les pays du Sahel comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger actuellement? Et où est-ce que il y a une opinion ou une réception positive à l'initiative de l'Algérie d'aider à la résolution des crises dans ces pays?
Oui, on le voit dans les manifestations et ils hissent le drapeau de l'Algérie, ils invoquent les prises de position de l'Algérie, etc. Bien sûr qu'il y a une sympathie, mais aussi il y a aussi une volonté de compter sur l'Algérie à laquelle ils reconnaissent beaucoup de bien. Donc les Africains, ils sont reconnaissants, ils sont tout à fait... sur la même ligne politique de l'Algérie, ou plutôt, il salue la prise de position algérienne contre les ingérences ou contre les interventions françaises en Afrique. Ça, c'est clair et net. On l'a vu partout dans les manifestations, sur les réseaux sociaux.
Aux autorités des pays, avec les initiatives diplomatiques algériennes.
Ça, c'est l'évidence. Ça, c'est évident. Donc, ils ont, et bien sûr, c'est les premiers responsables ont salué la prise de position algérienne. Ils comptent encore sur l'Algérie pour les soutenir et elle les soutient. Parce que les intérêts de ces pays sont similaires. Ils recoupent les intérêts de l'Algérie. C'est des pays voisins. D'abord, on a des frontières communes, mais en même temps, on a des intérêts communs s'agissant de l'immigration clandestine, le banditisme, la contrebande et les ingérences extérieures, parce que les Européens, ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont essayer par tous les moyens de déstabiliser l'Afrique et de ne pas la laisser tranquille. Cela est sûr, parce que le seul moyen de revenir, de récupérer, de retrouver leur privilège de la guerre, ils ne vont pas se taire comme ça du jour au lendemain.
Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a justement, dans le sens de ce que vous venez de dire, une déclaration du chef de renseignement extérieur russe qui a dénoncé justement des opérations clandestines occidentales dans certains pays du Sahel, je crois, si ma mémoire est bonne, le Mali et le Burkina Faso, pour mener des opérations clandestines dans le but de les déstabiliser.
Bien sûr, moi je l'ai senti à partir de mes diverses lectures. Et mes déductions, je sais très bien que même ces services secrets, ils peuvent pactiser avec l'Al-Qaïda ou avec le reste des groupes terroristes en Afrique. Ils peuvent les utiliser, ils peuvent pactiser, collaborer ensemble pour déstabiliser non seulement ces pays, mais aussi déstabiliser l'Algérie.
D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Professeur Ahmed Rouadjia, je vous remercie pour toutes ces informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question du double standard et de toutes ses conséquences dans le traitement médiatique des différents problèmes dans le monde. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien traité d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était le professeur Ahmed Rouadjia, enseignant-chercheur en histoire et sociologie politique à l'université Mohamed Boudiaf de Msila en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.